Bon début de journée avec Bernard Poirette. Merci d'avoir choisi Europe 1. Les informations, Jacques Terrence, Bernard Poirette.
Jacques, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une.
Des dégâts considérables à Paris sur les Champs-Élysées après la manifestation des Gilets jaunes. Certains d'entre eux ne cautionnent pas les violences, d'autres approuvent en revanche la casse des boutiques de luxe. Toute autre ambiance pour les marches en faveur du climat, de nombreuses familles étaient présentes dans les cortèges. Et puis le printemps du cinéma, dès aujourd'hui et pendant 3 jours, l'occasion d'aller voir à petit prix des films que vous auriez ratés. On vous donnera quelques conseils à la fin de ce journal.
Europe 1. Les images parlent d'elles-mêmes. La mobilisation des Gilets jaunes a tourné à la guérilla urbaine dans certaines rues de Paris.
10 000 Gilets jaunes s'étaient rassemblés dans la capitale pour ce 18e samedi de mobilisation. Les premières tensions avec les forces de l'ordre ont éclaté dès le milieu de matinée avant que ça ne dégénère dans l'après-midi. Le secteur des Champs-Élysées a été particulièrement touché. Vitrines saccagées, boutiques de luxe pillées, restaurants ou banques incendiées. Une maman et son bébé ont même failli mourir dans un incendie. Mais les Gilets jaunes, qu'ils soient casseurs ou pas, disent comprendre cette violence. Reportage de Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Marcher sur les Champs-Élysées hier après-midi, c'était marcher sur des bris de verre. Toutes les vitrines ou presque ont été brisées. Et c'est tant mieux, lâche Patrick.
Très bonne journée. Avec toute la casse, au moins on parlera de nous. Je suis pour la casse là. De toute façon, ce sont que des grandes entreprises internationales qui ont soutenu Macron. C'est tous ces gens qui l'ont mis là où il est, comme Vuitton. C'est que des symboles là.
Assise sur un banc, les yeux plissés par les gaz lacrymogènes, Marie-Louise, elle, est plus partagée.
Ça a dégénéré. Je cautionne pas, mais je peux comprendre. Je ne cautionne pas de casser des magasins, des choses comme ça, mais en même temps, je comprends les gens aussi qu'ils en ont ras-le-bol et puis voilà.
Un peu plus loin, devant une bijouterie pillée, des boîtes de bijoux vides jonchent le trottoir. Au pillage, beaucoup opposent la violence symbolique et l'arrogance d'un gouvernement qui ne veut pas écouter.
Ils ont un logiciel comme quoi ils ont raison, ce qu'ils font c'est pour bien. Il y a quand même une sorte de mépris, aussi bien du président, de certains de ses ministres, et ça les gens ne le digèrent pas. C'est un mépris de classe, comme si nous les pauvres mécréants, on n'y connaîtrait rien à la politique. Je pense qu'on connaît mieux la vie réelle.
Une heure après l'évacuation des champs, les commerçants sont de retour pour évaluer les dégâts. Les engins de voirie, eux, sont déjà à pied d'œuvre pour nettoyer l'avenue.
Jean-Jacques Herry, au total 237 personnes ont été interpellées à Paris, 144 ont été placées en garde à vue selon la préfecture de police. Les commerçants du quartier des Champs-Élysées demandent à être reçus par le Premier ministre et condamnent Aurélien Fleureau ce regain de violence.
Sous le choc, la directrice du Fouquet's a du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. Des magasins pillés, des vitrines détruites, des restaurants incendiés. Voilà ce qu'a découvert hier en fin de journée le président du comité Champs-Élysées, association qui réunit 180 enseignes de l'avenue. Pas d'interview pour ne pas mettre d'huile sur le feu, explique Jean-Noël Reinhardt, mais il dénonce ces saccages indignes, de même que la mise en danger de la vie de commerçants et de leurs clients. Les mesures de protection prises en amont n'ont pas été suffisantes. Voilà pourquoi le comité Champs-Élysées demande à être reçu à Matignon par Édouard Philippe pour que des réponses politiques soient apportées à cette banalisation des violences. Et puis parmi les victimes des casseurs, plusieurs kiosques à journaux incendiés. Des actes inacceptables, a réagi le syndicat des kiosquiers parisiens, qui rappelle que leurs collègues gagnent péniblement le SMIC en travaillant 6 jours sur 7.
Aurélien Fleureau. Par ailleurs, Emmanuel Macron a dû écourter son week-end au ski dans les Pyrénées pour rentrer en urgence à Paris où il a rejoint Christophe Castaner. Le président veut prendre des décisions fortes et complémentaires, dit-il, pour venir à bout de la crise des Gilets jaunes. Au total, 32 000 manifestants ont défilé dans le pays hier.
Ça, c'est le chiffre de la police, bien sûr. Eux, les Gilets jaunes, ils se sont vus 230 000. Toute autre ambiance lors de la mobilisation de la marche du siècle pour le climat.
À Paris, ils étaient 45 000 dans le calme. Ça, c'est un comptage du cabinet Occurrence pour plusieurs médias dont Europe 1, soit 5 fois plus quasiment que les Gilets jaunes. Et dans le cortège, de nombreux parents et leurs enfants, Claudia Bertram.
Un cortège interminable de la place de l'Opéra à celle de la République. Beaucoup sont venus en famille, comme Claire et sa fille Anaïs, 12 ans, pancarte à la main.
Il y a écrit « Pas de nature, pas de futur ». À la même époque, l'année dernière, on avait de la neige et là, il fait beau, il fait chaud. Je pense que c'est mal parti. La Terre, elle est en train de mourir.
La collégienne a aussi fait grève vendredi pour le climat, soutenue par sa mère.
Les jeunes sont naturellement beaucoup plus sensibilisés que nous, et beaucoup plus enthousiastes sur le sujet. Là, c'est elle qui a demandé à faire grève. Donc on s'est dit, on va les manifester parce que c'est important.
Une cause qui rassemble donc plusieurs générations dans la rue. Certains manifestants en gilet jaune aussi. De quoi redonner espoir à Jean-Christophe, lui aussi mobilisé pour le climat.
Avoir tant de monde qui défile pour ce genre de choses, c'est quand même déjà un bon signe, un bon espoir. J'espère que les choses iront au-delà des espérances et que des vraies actions prendront place.
Une marche pacifique qui s'est déroulée dans le calme à Paris et partout en France.
Claudia Bertram. Raphaël Glucksmann a été désigné par le Parti Socialiste tête de liste d'une union de la gauche aux européennes, mais la proposition n'est pas vraiment du goût d'Europe Écologie Les Verts.
Yannick Jadot sera à 8h15 l'invité d'Europe 1 ce matin et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, ça commence à 10h.
Et puis un hommage rendu aux victimes de la Nouvelle-Zélande ce dimanche dans le pays. Le dernier bilan fait état de 50 morts et 50 blessés, les fidèles abattus dans deux mosquées de Christchurch, était âgé de 3 à 77 ans.
Dans un instant, la suite de ce journal, direction le Var. Le Var dont les côtes ont été touchées en octobre par une pollution aux hydrocarbures après la collision entre deux bateaux en Méditerranée. Les plages, aujourd'hui, sont presque propres alors que va commencer la saison estivale dans quelques semaines.
Europe 1, il est 7h06.
6h-9h, Bernard Poirette sur Europe 1.
Vos infos continuent avec Jacques Terrance et Bernard Poirette.
Des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées hier sur une plage de Gironde, d'après des photos publiées par l'association Sea Shepherd, quelques jours seulement donc après le naufrage du cargo italien Grande America dans l'Atlantique.
Mais la préfecture de Gironde prévient, attention, il ne faut pas se fier aux photos alarmistes. Des prélèvements doivent être réalisés et comparés à ceux menés autour du navire qui a sombré mardi. Dans le Var, les côtes ont été confrontées en octobre dernier à des galettes d'hydrocarbures après la collision entre deux bateaux au large du Cap Corse. Depuis, le nettoyage a duré tout l'hiver et à l'approche de la saison estivale, les plages sont presque propres. Reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Pour nettoyer chaque plage, chaque rocher souillé par les hydrocarbures, il aura fallu 5 mois. Des centaines de personnes spécialement formées se sont relayées. Certains jours, elles étaient plus de 250. Jean-Pierre Van Bellingham, le PDG de la société Le Floc des Pollutions.
Les gens qui viennent maintenant se disent, ah, il y a eu une pollution, ils le voient parce qu'il reste encore quelques sacs de déchets à évacuer par hélicoptère. Mais autrement, bon, ils ne peuvent pas penser qu'il y a eu une pollution. Et quand on montre des photos avant et après, c'est vraiment édifiant. On est revenu à l'état initial.
Cette commerçante du golfe de Saint-Tropez est rassurée, elle a enfin retrouvé ses paysages.
C'est un soulagement pour notre plaisir à nous, les habitants du coin, et puis aussi pour l'économie. Quand il arrive une marée noire comme ça, l'économie tourne au ralenti.
Soulagement également pour le maire de Ramatuelle, Roland Bruno.
C'est un travail considérable qui a été effectué, qui nous permet d'envisager avec sérénité l'arrivée de la saison estivale. Et on est en train d'évaluer les dépenses de chaque commune, évaluer le préjudice qui nous a touchés.
Car l'État et les collectivités comptent bien faire respecter le principe du pollueur-payeur.
Et pour aujourd'hui, sur la France, il va pleuvoir sur les trois quarts du territoire. C'est un temps parfait pour aller au cinéma. Et ça tombe bien puisque c'est le début aujourd'hui du printemps du cinéma.
Avec un principe de base, 4 euros la séance pour tous les films et dans tous les cinémas. L'occasion d'une séance de rattrapage. Les conseils en la matière de Mathieu Charrier.
Le film à rattraper, c'est le grand gagnant des derniers Césars, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Il est ressorti en salle après son succès lors de la cérémonie. Jusqu'à la garde raconte le combat d'une femme pour s'émanciper d'un mari violent. C'est un chef-d'œuvre d'écriture et de mise en scène. Ensuite, bien sûr, il y a les grosses comédies, toujours à l'affiche. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, par exemple, dans la veine du premier ? Vous pouvez aussi rattraper Le Chant du Loup, film qui se déroule dans les sous-marins nucléaires français, porté par François Civil, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Omar Sy. C'est un vrai grand film d'action à la française, comme on en fait trop peu. À ne pas louper également Grâce à Dieu de François Ozon, qui revient sur la création de l'association La Parole Libérée pour dénoncer les actes pédophiles du père Prénat. Film ancré dans l'actualité, mais qui brille par sa pudeur et sa justesse. Si vous n'avez pas encore vu la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, Une affaire de famille, le film est également toujours en salle, signé du japonais Kore-eda, une fresque familiale positive sur la différence et la force du groupe. Enfin, un petit film d'animation à découvrir également, c'est Funan, qui à travers le destin d'une famille revient sur l'histoire du Cambodge entre 1975 et 1978, en pleine révolution Khmer Rouge. Un film fort mais parfois violent à montrer à ses enfants seulement à partir de 12 ans.
Mathieu Charrier, le printemps du cinéma, c'est jusqu'à mardi.
Et à 7h10, c'est le moment de zoomer sur le sport avec Jacques Terrance.
On commence par zoomer sur le rugby. Le Pays de Galles, sans surprise, finit en tête du tournoi des 6 nations.
Pour la 10e fois, les Gallois ont réussi le grand chelem. 5 matchs remportés sur 5, dont hier 25-7 face à l'Irlande. Suivent les Anglais puis les Irlandais dans le classement. Les Français terminent 4e devant l'Écosse après avoir battu l'Italie 24-14 avec 2 victoires et 3 défaites. C'est un bilan du tournoi des 6 nations très mitigé pour les Bleus, explique le demi de mêlée Antoine Dupont avec Simon Rubin.
Je pense pas qu'il soit positif sur, au final, puisqu'il y a deux matchs, notamment en Irlande et en Angleterre, où on perd assez largement, où on a été quand même dominé. On a pour ambition de se confronter au meilleur et aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a quand même un écart, on s'en est rendu compte. Il y a quand même des bonnes choses à retirer, mais c'est sûr qu'il reste du travail.
Et le prochain rendez-vous du 15 de France, c'est la Coupe du Monde dans 6 mois au Japon. Et puis il y avait aussi du top 14 hier. Montpellier a battu Toulon 21-18. Victoire de Castres sur Perpignan 36-17. Le Racing 92 s'est imposé 34-16 sur Grenoble. Agen a écrasé La Rochelle 19-17. Et Bordeaux-Bègle l'a emporté 26-12 sur Paris. À suivre aujourd'hui, toujours en top 14, Clermont-Pau et Lyon, et Toulouse-Lyon.
Toulouse-Lyon. L'arrivée aujourd'hui également du Paris-Nice cycliste après une dernière boucle dans l'arrière-pays niçois.
Et en Sky, en chasse, un autre. Hier, le Polonais Miral Fiatowski a cédé son maillot jaune à son coéquipier Egan Bernal après l'avant-dernière et étape reine de la course au soleil et l'arrivée au Turini remportée par le Colombien Daniel Martinez. Romain Bardet, sixième du général et qui a cédé un peu de terrain, ne peut que constater cette domination des Sky avec un petit peu, vous allez l'entendre, d'irritation dans la voix.
C'est pas une nouvelle, ils ont gagné combien de Tours de France ces dernières années? Tous quasiment, non? Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, c'est eux qui nous rendent la course difficile. Donc voilà, au 15 mars, ils sont bien supérieurs pour l'instant. Il n'y a plus qu'à baisser la tête, faire petit et travailler.
Romain Bardet avec Axel May.
Et puis le football, en Ligue 1, le classique Paris Saint-Germain OM, c'est au Parc des Princes à 21h.
Et comment le public parisien va-t-il accueillir l'équipe du PSG après son improbable élimination de la Ligue des Champions? On parle d'éventuelles banderoles hostiles dans les tribunes ce soir, voire une grève des encouragements pendant les 30 premières minutes. L'OM, de son côté, n'a toujours pas confirmé Mario Balotelli dans l'effectif. Il n'a pas pris l'avion hier soir avec les autres joueurs marseillais à cause, semble-t-il, de maux de ventre. En tout cas, ce sera un match compliqué pour l'OM, reconnaît l'entraîneur marseillais Rudy Garcia.
C'est un match important, c'est un match très très important parce que voilà, je sais où je suis, je porte le maillot de l'Olympique de Marseille moi aussi et on a envie de défendre les couleurs de l'OM du mieux possible. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain est favori de ce match-là. De toute façon, ils ont battu tout le monde, ils ont même, on va dire, explosé un peu tout le monde. Cette année, chez eux, en championnat, ils tournent presque à 4 buts de moyenne. On sait que ça va être difficile, donc soyons prêts à continuer à faire les efforts, à courir ensemble. Donc voilà, à nous de montrer qu'on est l'OM, qu'on va bien et qu'on veut exister sur ce match contre Paris Saint-Germain.
Propos recueillis par Yann Théroux. Parmi les autres matchs de Ligue 1 aujourd'hui, Lyon-Montpellier ou encore Bordeaux-Rennes. Hier, on en retient de la journée d'hier les 5-0 de Saint-Étienne à Caen ou encore la victoire 1-0 de Guingamp à Dijon. Et puis un mot de tennis, la finale d'Indian Wells aujourd'hui avec Roger Federer face à Dominic Thiem. Hier, Rafael Nadal, touché au genou, a déclaré forfait contre Federer.
Je complète avec le point sur le Grand Prix de Formule 1 d'Australie, le premier de la saison. Actuellement, à 2/3 de course, c'est le Finlandais Bottas qui est en tête. Et le premier français, Gasly, est à la 11e place et à la 2e position. Il y a le Britannique Hamilton. Merci beaucoup Jacques Terrence. Jacques Terrence revient à 8h pour son prochain journal.
À 7h14, c'est toute l'info du week-end sur Europe 1.